Ingénieur et architecte, c'est vrai que je suis arrivé vers le matériau bois aussi par des considérations d'optimisation structurelle et d'utilisation en fait de ce bois sous toutes ses formes. Alors, au départ, une charpente en bois est une charpente qui est réalisée à partir d'éléments prismatiques, des poutres, des poteaux. Et il est vrai qu'on a été fasciné par l'arrivée des produits dérivés du bois dans les années 90, en fait, du siècle passé. Les panneaux structurels et le fait qu'en tant qu'ingénieur civil, on a la possibilité alors de faire fonctionner ces structures dans leur surface plutôt que sous forme de flexion. Alors Mankowski, dans les années 60, a expérimenté ce type de structure. Et c'est très intéressant en fait de voir à quel point il y a moyen de gagner en fait d'épargner finalement en quantité lorsque on utilise ces structures. Alors les exemples que vous venez de voir, en tout cas les exemples de grande envergure, c'est souvent des systèmes poteaux-poutres. Et je crois qu'il y a moyen d'influencer la logistique des entreprises en proposant également d'autres méthodes de construction qui, elles, seraient basées aussi sur l'application structurelle d'éléments qui travaillent dans leur surface. Alors, ce qui est intéressant, je crois, c'est que lorsqu'on est dans une catégorie de projet d'expression emblématique, on peut évidemment avoir une plus grande expression formelle, on l'a vu dans la présentation auparavant d'Anouk Legendre. Ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est lier finalement les contraintes d'une géométrie globale aux contraintes locales après discrétisation de cette géométrie globale. À savoir qu'on a un lien, finalement, une contrainte qui s'applique aussi sur chaque élément qui compose cette géométrie globale. Et donc, on peut créer des gabarits ou créer des structures relativement complexes, mais qui, in fine, se résolvent uniquement par l'application, par exemple, d'éléments de base identiques. L'autre point, c'est que on a constaté que les connexions, les assemblages, ça a été mentionné aussi dans la conférence auparavant, posent et continuent à poser un problème logistique. Donc on voudrait simplifier la mise en place des assemblages et on voudrait les intégrer. Comme vous voyez sur l'image ici à gauche, lorsque vous réduisez en fait les sections ou les épaisseurs des panneaux, vous êtes hors norme en fait, puisque vous ne pouvez plus respecter les distances au bord, des vis, etc. Donc il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, je crois, de façon générale. Donc on s'est inspiré des techniques de découpe qui ont été mentionnées également, et on s'est intéressé aussi, en tant que laboratoire, aux différents chemins de machines, aux angles, etc., qui peuvent être fraisés. Donc c'est quelque chose qui nous a amené à lancer une thèse en 2013 qui en fait définit des espaces dans lesquels on a des champs d'insertion communs à plusieurs arêtes. Ça veut dire qu'on peut créer des géométries complexes et finalement, selon un seul vecteur d'insertion commun à trois arêtes, on peut définir la typologie d'assemblage. Ce qui nous a permis alors d'introduire dans les structures plissées également une courbure longitudinale. Vous avez une voûte, mais vous avez en fait une droite lorsque vous coupez longitudinalement dans un volume. Le fait de pouvoir également introduire une deuxième courbure, en fait, confère à l'ensemble une plus grande rigidité. Ça a aussi comme conséquence que tous les assemblages deviennent différents. Donc, vous n'avez plus la répétition, en fait, d'un élément au suivant. Alors, ça peut. Alors, je pense que c'est ancien lieu ici pour discuter davantage. Hier, une discussion autour du BIM, mais je pense qu'ici, c'est plutôt un modèle paramétrique, tout simplement nourri d'éléments géométriques qui doivent être transférés à un espace machine qui peut discuter davantage. Donc, on réalise la découpe et puis en 2014, on est parvenu à réaliser une première coque à nappe simple, doublement courbée et uniquement assemblée avec des connexions bois-bois. Ça a des bonnes résistances, des résistances de 30% supérieures, comme si on avait juste réalisé cette coque toute droite. Et on a également cherché, par exemple, à s'approcher de l'industrie du béton. Ici, on a fait une coque plissée en béton. Et je pense que pour des géométries complexes, c'est un réel alternative éventuellement d'utiliser ces techniques-là pour constituer le coffrage de coques en béton. Alors, important est ceci, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment évoluer vers le schéma repris sous D, c'est-à-dire on ne voudrait plus avoir une intervention séquentielle des différents matériaux, d'abord la structure, puis après la couverture, puis après les éléments intérieurs qui vont être fixés dessus. On voudrait une façon intégrée. Et c'est cette idée d'intégration qui est en fait signifiée sur l'image de gauche, qui a été appliquée pour une première fois pour la construction du théâtre des Vidi à Lausanne. Pour faire cela, il a fallu quand même, et ça c'est caractéristique du domaine, reprendre les fiches techniques de toute une série de panneaux et puis tester en fait leur rigidité flexionnelle pour les différentes typologies de connexions bois-bois qu'on peut imaginer. Donc vous voyez ici aussi bien des connexions inspirées du Japon que des connexions clipsées, que des tenons qui se trouvent au bord, comme on le faisait auparavant, ou des tenons qui sont repris dans la surface, qui sont plus rigides pour une question sollicitation flexionnelle. Il y a une deuxième thèse qui a été lancée également sur les différents modes de subdivision, je parlais de discrétisation, de ces surfaces doublement courbées. Et en 2015, alors, on a fait une coque à double nappe, uniquement connectée avec des connexions bois-bois. L'avantage étant que nous continuons à utiliser pour des grandes portées des panneaux relativement minces, que nous formons une hauteur statique par l'interconnexion de la nappe intérieure avec la nappe extérieure qui empêche ainsi le glissement entre les deux nappes, et nous formons également vite entre ces deux nappes qui peuvent recevoir une isolation thermique. Et c'est dans cette évolution-là que le directeur du théâtre de Vidi, Vincent Baudrier, s'approchait. Il avait besoin, à côté du théâtre de Max Piehl, construit en 1964, en fait, d'une salle supplémentaire de 600 mètres carrés, qui devait être indépendant de ce bâtiment, mais qui a quand même fait l'objet d'un examen du service de la protection des monuments sites du canton de Vaud, pour, en fait, admettre cette construction qui est modulaire, qui n'est pas, qui n'imite pas et qui a une forme en tant que telle. Ici à droite, vous voyez en fait le prototype 1-1 des parois utilisées pour ce pavillon. Donc ce sont des panneaux qui ont 40 mm d'épaisseur, qui sont distants de 30 cm. Et vous voyez bien que les deux nappes intérieures s'entrecroisent pour toucher chacune alors les nappes extérieures. Et c'est ainsi qu'à chaque segment, vous avez vraiment une certaine rigidité que vous voulez prendre et qui confère à l'ensemble la rigidité nécessaire. On a pu aussi, en plan sur une surface de 600 mètres carrés, introduire cette courbure longitudinale. Esthétiquement, ça a l'avantage que le volume, qui est relativement grand, apparaît moins dur, en fait, puisque l'œil glisse, en fait, sur cette forme. Et tout cela a été alors modélisé par un modèle paramétrique avec, et ici, on rejoint finalement l'industrie ou les acteurs de la construction, on doit respecter un plan de montage séquentiel. Donc, on ne peut plus, en fait, décider par où on commence, on doit vraiment définir chaque élément, non seulement qui a une seule place possible dans l'ensemble, mais aussi l'ordre séquentiel de montage, ce qui est illustré par ces. Donc, on a calculé en fait cette volumétrie et on a comparé différents types de panneaux, donc les LVL, mais aussi du 4, du 5 plis, du 3 plis. Et pour ce type de connexion, le 5 plis a été gagnant par rapport à la rigidité rotationnelle, ce qui a coupé le budget panneau par deux. Donc tout simplement parce que ce type de connexion peut être utilisé, on avait gagné sur une surface comme considérable ici, la moitié du budget en achat de ces panneaux-là. Alors je passe en vitesse, donc ça c'est une modélisation qui a été faite et qui a été réalisée par la suite avec l'entreprise Blum & Lehmann pour la découpe des panneaux et finalement leur assemblage. On a déjà dit également dans d'autres présentations, je pense que la digitalisation du secteur bois est bien avancée, et aussi le degré de préfabrication et de prééquipement. Donc ça a été fait ici aussi, je pense que c'est assez intéressant de voir qu'on a un seul élément ici de 9 mètres de haut, 2,40 mètres de large, qui correspond donc à une facette, et finalement tout le bâtiment est constitué uniquement de 33 éléments. En fait, c'est 33 éléments qui ont été assemblés. Relativement ici, vous avez l'élément toiture, vous venez de voir l'élément de paroi et la connexion entre ces éléments-là. Donc ici, c'est les quatre premières arches qui sont montées. Ça a été fait en 4 jours. Et puis, pour les deux tiers restants du bâtiment, ça a été fait en 4 jours supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui s'est passé assez rapidement. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est finalement, malgré la complexité apparente de la géométrie, finalement, la construction elle-même est restée relativement simple. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'erreur, tout a pu être assemblé facilement. On n'avait vraiment pas de budget pour les fondations, du coup, le bâtiment n'a pas de fondation. C'est-à-dire, les rigidités, on les a pris en fait au-dessus. C'est comme une structure de portique, si vous voulez, qui est articulée à sa base pour ne pas transmettre des moments de flexion trop importants au niveau d'une simple dalle en béton de 16 centimètres d'épaisseur qui constitue la base. C'est un terrain qui a été gagné sur le lac, donc du coup, ça aurait été relativement coûteux d'y insérer des pieux, etc. C'est aussi quelque chose, je pense, qui parle par rapport à la procédure de construire. Ici, on n'a plus les deux phases. Grosse œuvre et parachèvement, quelque part, nous avons à gagner beaucoup par une planification intégrée qui nous permet finalement de gagner du temps aussi pour le maître d'ouvrage. Et enfin, je crois que ce qui est très important, c'est que nous pensons également à la vie de ce bâtiment. Il peut être démonté, en fait, donc il peut être remonté aussi. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'au départ, c'était un permis provisoire pour 2 ans. Finalement, la demande était une durée de 25 ans. Mais au cours de route, ça a été adapté. Et je crois que le tri, en fait, donc en fait, le vide entre deux parois, c'est uniquement du papier recyclé qui a été soufflé dans ce vide et qui peut donc tomber tout simplement lorsque un jour on serait amené à démonter ce bâtiment. Ici, une vue intérieure, donc cette méthode de construction confère également une lisibilité ou une expression architecturale, son ensemble. C'est quelque chose qui plaît, en fait. C'est malgré le fait qu'aujourd'hui, évidemment, un théâtre se doit totalement noir depuis l'intérieur, on sent quand même toujours, malgré le fait que ce soit noir, cette logique constructive qui dessine également des aspects de lisibilité dans l'expression architecturale. Je vous remercie.